RFI 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
L'heure du journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le retour des vents secs et chauds à Los Angeles.
Avec des rafales jusqu'à 120 km/h, de quoi alimenter les incendies et peut-être même en provoquer de nouveaux. Les adieux de Joe Biden à la politique étrangère. Quelques jours avant son départ de la Maison Blanche, le président américain a défendu hier ses 4 années de mandat. On y revient dans ce journal. On va parler aussi du début du procès en Corée du Sud du président déchu Yoon Suk-yeol, de la déclaration de politique générale du premier ministre français François Bayrou cet après-midi devant les députés, des recherches qui continuent au Niger après l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Agadez, et puis de Charlie Dalin qui est sur le point de remporter son premier Vendée Globe.
Avec plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules détruits ou endommagés par les flammes, les incendies de Los Angeles pourraient bien être les plus coûteux de l'histoire.
Ils durent depuis près d'une semaine maintenant. Des quartiers entiers de la ville californienne ont été ravagés. Au moins 24 morts. Nous tombons tous les jours sur des corps, explique le shérif du comté. Les milliers de pompiers déployés sont, c'est vrai, parvenus à globalement circonscrire les deux principaux foyers. Sauf que le vent sec et chaud qui s'était calmé repart de plus belle. Des rafales soufflant jusqu'à 120 km/h ont d'ores et déjà été enregistrés dans certaines zones. Ça devrait se poursuivre dans les prochains jours, risquant non seulement d'attiser les flammes déjà existantes, mais en plus de provoquer de nouveaux départs de feu. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a fait le point il y a quelques heures.
Comme nous l'avons dit, le service météorologique national prévoit des vents proches de la force d'un ouragan et nous nous préparons donc à faire face à l'urgence. Ma priorité absolue est celle de tous les autres et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les vies. À l'approche de ces vents, les pompiers de la ville de Los Angeles, ceux de tout le comté, de l'État, du pays et même de l'étranger sont dans une position proactive et stratégique pour sauver des vies. Les sources de lutte contre l'incendie sont positionnées dans des lieux d'attente stratégiques. Le département de l'eau et de l'électricité déploie des camions-citernes pour augmenter l'approvisionnement en eau des pompiers. Les centres d'opération d'urgence restent activés au plus haut niveau afin de coordonner rapidement les interventions d'urgence. To rapidly coordinate
emergency response. La maire de Los Angeles, Karen Bass, alors que selon le président américain, la remise en état de la ville pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars.
Joe Biden qui s'apprête à plier bagages.
Dernière semaine à la Maison Blanche, lundi prochain, son successeur et prédécesseur Donald Trump prêtera serment. Alors avant de lui céder sa place, Joe Biden a fait le bilan hier de sa politique étrangère lors d'un discours au département d'État. Concurrence commerciale avec la Chine, guerre en Ukraine, celle à Gaza, mais aussi l'OTAN et le dossier iranien. Il a listé les grandes thématiques diplomatiques qui ont marqué sa présidence avec quand même une ligne directrice. Les États-Unis se sont renforcés et leurs ennemis se sont significativement affaiblis, Nicolas Roca.
Iran, Russie, Chine, Corée du Nord, un par un, Joe Biden a égrené la liste des adversaires des États-Unis.
Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait conquérir Kiev en quelques jours. En réalité, depuis le début de cette guerre, je suis le seul chef d'État à s'être tenu debout en plein centre de Kiev.
Estimant que les alliances américaines s'étaient renforcées, il a salué les hausses des dépenses militaires des pays de l'OTAN et a renouvelé son soutien indéfectible à Israël. Joe Biden a évoqué un potentiel cessez-le-feu à Gaza, mais il s'est surtout réjoui de l'affaiblissement de son grand ennemi au Moyen-Orient.
Maintenant, les défenses aériennes de l'Iran sont en lambeaux. Son allié au Liban, le Hezbollah, est gravement blessé. Et tout en testant la volonté de Téhéran de faire renaître l'accord sur le nucléaire, nous avons maintenu la pression des sanctions.
Fermeté et dialogue, une recette qu'il a également prônée face à la Chine, tout en se réjouissant de l'avance prise par les États-Unis sur son principal concurrent économique.
Maintenant, si l'on en croit les prévisions récentes, la Chine ne nous dépassera jamais. Point à la ligne.
Tout en plaidant pour une poursuite de sa politique étrangère, Joe Biden a aussi souligné devant les employés du département d'État le grand écart qui le séparait de la future administration Trump.
Et vous l'entendiez, Joe Biden affirme qu'un accord de trêve à Gaza, comprenant une libération des otages israéliens détenus dans l'enclave, est sur le point d'être conclu, alors que les négociations indirectes se poursuivent au Qatar. En attendant, c'est bien la guerre qui se poursuit à Gaza. Au moins 50 morts hier selon les secours locaux après des bombardements israéliens sur Gazaville. L'armée israélienne affirme de son côté avoir perdu 5 de ses soldats dans le nord du territoire. Le Liban a un nouveau premier ministre. C'est Nawaf Salam qui a été nommé hier, jusqu'alors président de la Cour internationale de justice. Sa candidature était notamment soutenue par des forces politiques anti-Hezbollah. Le président français Emmanuel Macron se félicite de cette nomination qui, dit-il, quelques jours après l'élection du président libanais, Joseph Aoun, fait naître un espoir de changement pour le pays.
Le début ce mardi du procès en destitution du président sud-coréen Yoon Suk-yeol.
Devant la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au mois de juin pour confirmer ou non cette destitution votée par les députés. Et cette première audience se fera sans le principal intéressé. Ses avocats s'en sont expliqués. Les conditions de sécurité ne seraient pas réunies. Alors il reste barricadé dans sa résidence, visé en plus par un mandat d'arrêt, alors qu'il fait également l'objet de plusieurs enquêtes, dont une pour rébellion après sa tentative échouée d'appliquer la loi martiale. Jusqu'à présent, sa garde rapprochée a empêché son arrestation. Reste à voir maintenant dans quelles conditions va se dérouler le procès devant la Cour constitutionnelle. Mais quelle que soit sa stratégie, beaucoup d'éléments pèsent contre le président déchu. C'est ce que nous dit Christophe Godin, maître de conférence en sciences politiques à l'université Kukmin à Séoul.
Au cours des dernières semaines, on a pris connaissance d'éléments à charge gravissimes contre le président Yoon. On avait appris en particulier que l'ordre avait été donné de tirer sur les parlementaires qui voudraient faire obstacle à la loi martiale quand elle avait décidé. On a appris que le président Yoon avait ordonné l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, du chef de l'opposition et même du chef de son propre parti. Donc, ce que je suppose, mais là, il faut voir si les événements me donnent raison, c'est que les avocats vont faire un tour de piste, qui vont probablement essayer de donner les apparences de la légalité, mais uniquement pour prétendre que le procès est un procès à charge. Parce que à mesure qu'ils vont être confrontés aux éléments gravissimes connus, à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait matière à défendre Yoon dans le cadre d'un procès normal.
Et si sa destitution venait à être confirmée par la Cour constitutionnelle, cela entraînerait automatiquement de nouvelles élections dans le pays. Une destitution, c'est aussi ce que risque la présidente péruvienne Dina Boluarte. Elle a comparu hier devant la justice lors d'une audience à huis clos. Accusée d'abandon de poste, ce qui lui est reproché, c'est en fait de ne pas avoir respecté la constitution du pays en gardant secrète une opération du nez subie en juillet 2023. Or, elle est dans ce cas-là tenue d'en informer le Parlement en raison des risques qu'une telle opération peut entraîner sur sa santé et donc sur sa capacité à gouverner. Malgré le scandale, Dina Boluarte exclut de démissionner.
Il est 8h08 à Mamoudzou et Mayotte se réveille sans alerte rouge.
Oui, elle a été levée hier dans la journée. La tempête tropicale Dikeledi s'est éloignée et se rapproche maintenant du sud de Madagascar. Pas de mort signalée à Mayotte, mais cela s'ajoute quand même au traumatisme du passage du cyclone Chido le mois dernier. Lui avait fait au moins 39 victimes, laissant un paysage dévasté dans l'archipel français où de nombreux écoles ont été endommagées. La rentrée des enseignants est d'ailleurs à nouveau décalée à cause de la tempête tropicale qui vient de passer. Ce ne sera finalement pas avant la semaine prochaine, au plus tôt, encore plus tard pour la rentrée des élèves. Hier soir à Paris, l'examen du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte se poursuivait en commission à l'Assemblée nationale. Premier texte du gouvernement Bayrou.
Le Premier ministre qui fait aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant les députés.
Ce sera à 15h heure de Paris, exercice traditionnel pour un nouveau chef de gouvernement afin qu'il détaille ses intentions. Cette fois, François Bayrou est particulièrement attendu au tournant dans une assemblée morcelée qui n'est toujours pas parvenue à adopter un budget pour l'année 2025. Et puis, il y a aussi l'épineuse question de la réforme des retraites. Certains, comme le Parti socialiste, réclament sa suspension sous peine de censurer le nouvel exécutif. Car la France insoumise a bel et bien prévu de déposer une motion de censure après le discours. La situation est donc délicate pour le gouvernement, Aurélien Devernois.
La suspension de la réforme des retraites, hors de question pour Philippe Juvin, député droite républicaine participant au gouvernement.
L'annulation du système actuel, de la loi actuelle, c'est une folie et nous ne la soutiendrons pas.
Mais ne pas le faire, c'est s'exposer à la fureur des socialistes et au risque de censure, explique le député PS Iñaki Echaniz.
Nous avons mis un certain nombre de propositions sur la table. C'est à eux d'en prendre acte et de nous dire oui ou non, de fermer la porte ou pas, ou de préférer aller négocier avec l'extrême droite.
En résumé du dilemme auquel doit faire face François Bayrou, tenir les deux aux côtés de l'élastique politique sans que celui-ci craque et avec un camp présidentiel lui-même prêt à piétiner les initiatives trop Macron incompatibles du Premier ministre. Olivia Grégoire, députée Ensemble pour la République.
Mais il n'y a pas que les retraites, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui vont plus loin, qui relèvent de la fiscalité du capital. Et il est vrai qu'on a bien compris que la gauche voulait revenir, voire effacer 7 ans d'action du président de la République Emmanuel Macron. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne souhaite pas qu'on revienne.
Une position du bloc central qui horripile la députée écologiste Sandrine Rousseau.
Je n'ai jamais entendu de critique de la part du camp présidentiel disant que le gouvernement avait trop lâché à l'extrême droite. Donc à un moment, ça suffit.
Bref, toutes les épées sont prêtes à sortir de leur fourreau, à moins que François Bayrou ne trouve les mots justes pour apaiser. Première étape, le petit déjeuner qu'il organise ce matin avec les partis gouvernementaux.
Aurélien Devernois du service politique de RFI.
Au Niger, les recherches continuent après l'enlèvement samedi soir d'une ressortissante autrichienne à Agadez.
Emmenée de force par des individus armés non identifiés dans cette ville du nord du pays où elle était installée depuis près de 30 ans. Un conseil de sécurité présidé par le gouverneur d'Agadez a eu lieu hier. Toujours aucune revendication. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda dément toute implication. C'est la première fois qu'un citoyen européen est enlevé à Agadez et le dernier kidnapping d'un occidental dans la région remontait à plus de 10 ans, comme l'explique le journaliste nigérien Sedi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel.
Il y a ces dernières années un banditisme résiduel à Agadez qui a été alimenté par le trafic d'armes venues de Libye et qui ont jusqu'ici servi à des opérations de braquage, mais qui n'avaient pas pris la dimension que l'on vient de voir avec l'enlèvement d'une ressortissante européenne. Il y a toujours eu des va-et-vient des Européens qui vont à Agadez, qui reviennent sans qu'il y ait eu cette forme d'action qui, dans la région, n'a pas eu lieu depuis l'enlèvement de 2010 dans la région d'Arlit. On sait que même s'il n'y a pas de mouvement terroriste à proprement parler dans cette zone, il y a toujours eu la tentation chez certains d'enlever des Européens et de les revendre à des groupes armés et le risque existait. Mais je crois que ces derniers mois ou ces dernières années, il a pris une ampleur avec les difficultés économiques.
Des propos recueillis par Magali Lagrange. Une nouvelle journée de grève générale ce mardi au Mozambique à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane qui parle toujours de fraude électorale lors des élections du 9 octobre dernier remportées par le Frelimo. Le Parlement a prêté serment hier tandis que le président élu Daniel Chapo sera investi demain à la tête du pays.
De la mer à la terre, le dénouement est proche.
Charlie Dalin s'apprête à remporter son premier Vendée Globe. Il devrait arriver d'ici peu au Sable d'Olonne où l'on vous retrouve. Thomas de Saint-Léger, vous suivez la fin de cette course à la voile en solitaire est terre en vue.
Oui, Gaëtan, ça sent l'écurie, comme il le disait lui-même il y a quelques heures. Charlie Dalin touche au but à quelques milles nautiques de cette ligne d'arrivée. Les derniers moments de concentration, de solitude, aussi un peu plus de 64 jours après son départ du même endroit. Ils étaient 40 navigateurs et navigatrices, des adversaires avec qui il aura longtemps ferraillé, Johan Richaume notamment, qui était encore à son contact il y a quelques jours, mais le plus préparé, le plus déterminé, c'était lui, Charlie Dalin, premier déjà à franchir cette ligne il y a 4 ans, mais deuxième du classement final après une histoire de compensation de temps pour un autre adversaire. Il se sera servi sans doute de cette frustration pour aller chercher à 40 ans son Graal, le Graal de tous les marins, et mériter cette belle ovation qui l'attend sans doute au Sable d'Olonne où l'atmosphère pour l'instant est glaciale, température négative, mais ça n'est rien comparé à ce qu'il aura vécu Charlie Dalin, notamment dans les mers du Sud.
Merci Thomas de Saint-Léger, en direct des Sables d'Olonne où vous suivez donc l'arrivée de ce Vendée Globe pour RFI.
Et on suivra ça, donc cette arrivée dans quelques minutes avec Thomas de Saint-Léger que l'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Merci Gaëtan Plenem. 6h14 à Paris, ravi de vous retrouver ce matin avec toute la rédaction de RFI. On est ensemble jusqu'à 9h et nous irons ce matin à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Jabalia, rayée de la carte où plus aucune trace de vie ne subsiste. C'est ce que nous raconte Sami Boukhelifa, notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, qui a réussi à se rendre sur place. L'enclave palestinienne toujours fermée à la presse étrangère, sauf exception, et sous contrôle de l'armée israélienne. israélienne. Son récit à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux d'RFI et dans notre dossier du 8h ce matin. RFI également à Mayotte ce mardi, un mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Reportage de notre envoyé spécial à retrouver dans une minute, mais aussi dans le journal de 7h, La France, où François Bayrou, Premier ministre, est attendu aujourd'hui devant les députés pour sa déclaration de politique générale. On en parle avec notre invité à 7h20. On va aussi évoquer les États-Unis ce matin et ces incendies qui ravagent Los Angeles et sa région. Également ce matin, la Tunisie, 14 ans jour pour jour après la chute de Ben Ali, la Côte d'Ivoire et ce mystère bien entretenu sur la candidature ou non d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Analyse de l'enseignant Arsène Brice Badeau dans une demi-heure. Vous écoutez RFI, les 8h15 à Mamoudzou. Les députés français réunis en commission ont débattu jusque tard hier soir sur le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, l'archipel français frappé il y a un mois par le cyclone Chido. Outre un bilan humain sur place, tout est à reconstruire et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Beaucoup de Mahorais survivent sans toit, sans électricité, dans les débris et un sentiment fort d'abandon. Entre débrouille et frustration, notre envoyé spécial à Mayotte, Raphaël Delvolvé, a recueilli leur témoignage. Reportage.
Depuis Chido, deux sons résonnent plus que les autres dans Mayotte. Celui de la tôle et des tronçonneuses. Les opérations de déblayage continuent. Sur l'île, aucun endroit ne semble épargné.
Cette fois-ci, ça a vraiment frappé l'île en plein fouet. Vous voyez déjà le dégât.
Aramadi Salim est chauffeur. Il conduit des camions le matin, un taxi l'après-midi à Mamoudzou, la préfecture. Dans ce décor de végétation détruite et de routes jonchées de débris et de déchets, il voit une très légère amélioration.
Là, ça commence à changer parce que, bon, on a fait une semaine dans le noir et sans eau. On se débrouillait par-ci, par-là pour trouver de l'eau. Mais là, depuis que l'électricité est revenue, ça va.
S'il a repris son travail, c'est avec beaucoup de contraintes.
Ah oui, entre parents. Rien que pour avoir le carburant, il faut faire la queue juste comme pas possible.
Ce semblant de retour à la normale n'existe qu'à Mamoudzou. Au nord de l'île, touché par l'œil du cyclone, les choses sont bien plus compliquées.
Le bateau, c'est mon outil de travail, donc moi, si j'ai pas de bateau, je peux pas travailler, malheureusement.
Devant une baie où la plupart des bateaux sont retournés, ce pêcheur de la ville d'Amjago se sent abandonné.
On est un tout petit peu exclu de la zone Mamoudzou, même au niveau des informations et tout, on connaît pas.
L'information, sans doute ce qu'il y a de plus précieux après l'eau et la nourriture à Mayotte. Les contacts avec les autorités et les assurances demeurent par endroits impossibles et les doutes se renforcent.
Pourquoi ils cachent la vérité? Là, les Maoris que vous voyez là, ici, on n'a pas l'électricité. La moitié de la population de Amjago n'a pas l'électricité.
Faoulati est mère de famille. Dans sa tenue traditionnelle, elle laisse exploser sa colère.
C'est inhumain. Il y a des aides qui sont arrivées. Ces aides-là, on ne les voit pas ici au nord. Tout est figé sur les bidonvilles. Et tout le monde sait qui sont ces gens qui vivent dans les bidonvilles. Ce sont des gens qui sont entrés ici illégalement. Et nous, on compte pour rien, non?
Les bidonvilles, appelés ici Banga, symbole d'un autre problème de Mayotte, l'immigration clandestine venue en grande partie des Comores, le sentiment de surpeuplement des quelques 374 km² du territoire et de saturation des services publics s'est renforcé après le cyclone dans les zones les plus reculées. Maria Thibou habite le sud de l'île.
C'est un gros problème qu'il y a à Mayotte en ce moment. Quand on regarde, tous les bangas sont déjà montés. C'est le moment de régler tout ça.
Lors de sa venue il y a 15 jours, le Premier ministre François Bayrou a promis, outre de s'attaquer aux problèmes migratoires, de reconstruire Mayotte en 2 ans.
Ce reportage de Raphaël Delvolvé à Mayotte et ce projet de loi d'urgence pour la reconstruction de l'archipel. Les députés doivent reprendre leur discussion à ce propos ce matin. Le texte devrait être adopté sans difficulté avant son arrivée dans l'hémicycle lundi prochain. Beaucoup d'élus le trouvent insuffisant et regrettent justement qu'il ne fasse pas mention de cette question de l'immigration illégale. Mayotte, qui est l'un des premiers dossiers urgents à régler pour François Bayrou, le Premier ministre français, est attendu aujourd'hui aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. En clair, il va détailler ses intentions devant les députés. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce discours, les attentes, notamment autour du budget, de l'épineuse question de la réforme des retraites, qui pourrait sceller une entente avec la gauche à l'Assemblée nationale. Vous allez en parler ce matin avec votre invité, François Auméril, président de la CFE-CGC.
Oui, chef de file d'un syndicat de salariés, il va nous dire ce qu'il attend, en particulier de ce discours de politique générale. Comme les autres partenaires sociaux, il a été reçu par le Premier ministre à Matignon. Et vous le disiez, Andréane, on sait que la question de la réforme des retraites est devenue centrale dans la discussion avec les partis politiques, puisque la gauche, hors insoumis, réclame la suspension de la réforme en échange d'une non-censure du gouvernement. Comment François Auméril observe-t-il ces manœuvres au-delà des retraites? Quel dossier prioritaire? On sait que depuis quelques mois, les syndicats alertent sur la multiplication des plans sociaux et des licenciements dans l'industrie. Et notre invité, François Auméril, sait de quoi il parle, puisque après la reprise de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 26 ans, il vient d'être licencié. C'est un patron de syndicat et un chômeur que nous recevons tout à l'heure.
A tout à l'heure, Arnaud. Rendez-vous 6h20, temps universel. Un grand oral pour François Bayrou aujourd'hui, donc face à une Assemblée nationale morcelée, sans majorité. Le Premier ministre nommé le 13 décembre par Emmanuel Macron, attendu au tournant, on le disait, sur pas mal de sujets, et notamment sur la question de la transition écologique. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Andréane.
En studio avec nous ce matin pour tenter de répondre à notre question d'environnement. Stéphanie, la trajectoire climatique de la France est-elle victime de l'instabilité politique?
Eh bien, tous les voyants sont au rouge, alerte en tout cas scientifiques et ONG environnementales, car dans l'incertitude, les particuliers et les entreprises retardent leurs décisions. La vente de pompes à chaleur s'est effondrée, la construction de pistes cyclables a ralenti, tout comme le déploiement de nouveaux transports en commun. Pire encore, raconte Anne Bringot, directrice des programmes au réseau Action Climat.
On voit par exemple que les ventes de véhicules électriques sont en train de stagner et c'est en partie lié aux flottes d'entreprises, c'est-à-dire que les entreprises ne jouent pas le jeu pour les véhicules qu'elles achètent pour leurs propres besoins. Sur la rénovation énergétique, comme on a un retard sur la rénovation performante des logements, eh bien, dès qu'il fait plus froid, on utilise plus de chauffage et ça veut dire plus de fuel, plus de gaz fossile.
Alors comment s'expliquent ces difficultés ?
C'est vrai qu'elle pourrait surprendre, Andréane, puisqu'il y a 2 ans et demi, la France s'était dotée d'une planification écologique censée placer la transition au cœur de toutes les décisions politiques. Mais le brouhaha de l'instabilité qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale a éclipsé l'urgence climatique au profit d'autres sujets comme la sécurité ou l'immigration.
Et s'y sont ajoutées les contraintes budgétaires liées au déficit public abyssal de la France.
Ouais, tout à fait. Pour combler un trou de 60 milliards d'euros dans les caisses de l'État, Michel Barnier, le prédécesseur de François Bayrou, voulait aussi faire des coupes drastiques dans les primes allouées à la rénovation énergétique, à l'achat de véhicules électriques justement, mais aussi dans le fonds vert, un mécanisme pour financer la transition écologique des collectivités territoriales. Si ce projet de budget est tombé en même temps que le Premier ministre Barnier, il a traduit quand même un manque de cohérence politique vis-à-vis de l'objectif que s'était fixé la France, à savoir baisser de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Anne Bringot.
Les effets sont très concrets puisque au troisième trimestre 2024, les émissions de gaz à effet de serre ont repris une hausse en France. Donc on voit bien que cette instabilité fait que les mesures politiques ne sont pas mises en œuvre, les budgets ne sont pas alloués à la transition écologique et les résultats, malheureusement, très concrètement, c'est que la France est en train de perdre l'avance qu'elle avait sur la transition écologique.
Alors que va annoncer François Bayrou aujourd'hui devant l'Assemblée nationale? Son discours sera particulièrement scruté par les collectivités territoriales chargées de mettre en œuvre la majeure partie des projets d'atténuation mais aussi d'adaptation au changement climatique.
Et on suivra ça bien sûr sur RFI aujourd'hui. Merci Stéphanie Schuller. Notre rendez-vous, la Une en Asie sur RFI à présent, ce mardi 14 janvier 2025. On s'intéresse aux déboires du groupe français Sodexo, bien connu pour les nombreux restaurants d'entreprise qu'il gère en France. En Australie, son incursion dans le secteur minier, pourtant locomotive de l'économie australienne, lui coûte au contraire très cher. On en parle avec Grégory Pless, notre correspondant à Sydney. Bonjour Grégory.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et le groupe Sodexo en Australie est donc en grande difficulté.
Absolument, il a perdu près de 10 millions d'euros l'année dernière et plus de 100 millions au cours des 9 dernières années. Il faut dire que l'activité qui plombe la Sodexo en Australie est loin d'être aisée puisqu'il s'agit de gérer des camps de mineurs, des camps situés généralement dans des régions très isolées à des centaines de kilomètres des villes les plus proches, souvent en plein désert et donc où le climat est particulièrement rude. Et pour ajouter à ces difficultés, la Sodexo a perdu en 2024 l'un de ses plus gros clients, le groupe Fortescue, propriété d'Andrew Forrest, la deuxième personne la plus riche d'Australie, qui lui a préféré une entreprise concurrente pour gérer ses camps de mineurs dans la région de Pilbara, où on trouve certaines des plus grandes mines de fer au monde.
Il faut dire, Grégory, que la qualité des services rendus par la Sodexo dans ces camps de mineurs a parfois été critiquée.
Oui, c'est exact. Ces dernières années, la Sodexo a souvent été critiquée par les mineurs, notamment pour la qualité des repas qu'elle proposait dans ces camps. Or, ces mineurs, ils sont certes très bien payés, mais ils travaillent aussi dans des conditions très difficiles. Ils passent plus de la moitié de l'année à des centaines, voire même à des milliers de kilomètres de leur famille. Et donc, le minimum qu'ils attendent quand leur journée de travail est terminée, eh bien, ce sont des installations correctes et des repas qui leur plaisent. Qui plus est, comme ils disposent de compétences rares et très recherchées, ils n'ont aucun mal à trouver du travail. Et ce qui peut faire la différence quand il s'agit de choisir un employeur, eh bien, c'est la qualité de la cantine. Alors ces critiques, la Sodexo les a entendues. Elle a investi plus de 130 millions d'euros depuis 2017 dans sa division australienne pour monter en gamme. Ainsi, dans certains de ses camps de mineurs, on peut maintenant manger de la côte de bœuf. Il y a aussi des chefs asiatiques qui vous proposent des plats chinois ou vietnamiens. Le groupe prévoit également d'y mettre prochainement en place de nouveaux services, comme par exemple des salons de coiffure ou encore des cours de yoga.
Alors cette montée en gamme, elle vise pour la Sodexo à se démarquer de la concurrence pour décrocher ainsi de nouveaux contrats.
Évidemment, mais aussi à en renouveler certains, notamment un méga contrat de 1,5 milliard d'euros conclu avec le géant minier Rio Tinto qui est d'une durée de 10 ans et qui arrive à échéance en 2026. Le groupe a tout récemment indiqué à ses actionnaires qu'il était en train de négocier son éventuelle reconduction et que celle-ci serait déterminante pour l'avenir du groupe en Australie. Il faut dire que la Sodexo, qui est au service de plus de 20 000 mineurs en Australie, a vu son chiffre d'affaires plus que doublé en 10 ans. Il a atteint plus de 600 millions d'euros l'année dernière, mais c'est aussi le cas de ses coûts, notamment en matière de main-d'œuvre, mais aussi de matières premières. Reste que pour l'instant, le groupe reste déterminé à s'installer durablement dans le secteur minier australien et il continue d'espérer qu'à terme, cette activité finira par être rentable.
Grégory Pless pour la Une en Asie. Dans 3 minutes sur RFI l'info africaine, mais d'abord un peu de musique, c'est sur notre playlist ce mois-ci. Shako the Great avec Minketa et le titre Romantic. Everything I do is nothing, stupidly things I do follow. Everything I do is nothing, ooh la la, mommy you worth it. Kanji go kill me, with the way you work it. Magic. You make me leak my blood, oh my blood. Now with it in my heart, oh control. I don't fall in love, oh in love. Girl, I go follow you like cutter. You make me leak my blood, oh my blood. Now with it in my heart, oh control. I don't fall in love, oh in love. Girl, I go follow you like cutter. I wanna kiss you until the sun down. Baby, come around with me. You got a man now. I wanna kiss you until the sun down. Baby, come around with me. You got a man now. Romantic, romantic. Baby, you were meant for me. Romantic, romantic. Oh. Romantic par Shaco the Great en featuring avec Minketa. C'est à retrouver sur notre playlist RFI sur toutes les plateformes d'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
moi sans alcool, Dry January pour faire le point de sa consommation.
Demain,
devenir parent quand on est handicapé, reportage de Charlie Dupio.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Comment et pourquoi traduire des langues minoritaires ? La revue canadienne alternative francophone en fait un enjeu majeur pour lutter contre les totalitarismes linguistiques. Et pour Faisal Kassem, qui dirige ce numéro, il s'agit de promouvoir les échanges entre toutes les francophonies.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.